bienvenue dans cette chronique des entrepreneurs intelligents chrétiens. Lors de ma première chronique sur KPO, je vous ai parlé de la dignité de l'homme. Cette dignité de la personne humaine s'enracine dans sa création à l'image et à la ressemblance de Dieu. Elle s'accomplit dans sa vocation à la béatitude. En voilà, très récemment, l'Assemblée nationale a voté un texte, ce qui est très joliment appelé « être amour », tout en essayant de comprendre que c'est notamment pour mourir dans la dignité. Car visiblement, dans la tête de ceux qui ont voté ce texte, une personne qui souffre est réduite. Je voudrais vous en citer trois exemples. Tout d'abord, la fondation Amicus. C'est un modèle d'usine unique en son genre, qui transforme notre vision du travail. 6 usines à Prenant, plus de 800 salariés, 215 personnes en situation de handicap, réintégrées en entreprise classique. Un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros et 20 millions d'économies de dépenses publiques par an. La mission de la fondation Amicus est de remettre été laissés sur le coup. Les apprentissages de la fondation consistent d'abord à apprendre la technique. Ces techniques utilisent son sens. Ces sens sont faits pour développer le cerveau. En situation d'apprentissage, il y a des sollicitations répétées qui développent des synapses existantes entre les neurones et créent de nouvelles. Chez des personnes avec des déficits intellectuels, ce type d'apprentissage exacerbé peut améliorer leur capacité cérébrale. La MIPI, en repensant le travail comme un levier d'apprentissage, on peut reprogrammer un cerveau, rendre de l'autonomie et créer de la valeur. Un second exemple, c'est Innov Aide pour handicap, créé par Thomas Ayard, ingénieur théotiste spatial. Cette société offre à ses clients la possibilité de donner du sens à leurs prestations et de porter leur valeur humaine dans l'entreprise. C'est une entreprise de consultants handicapés, agréée entreprise adaptée. Les clients disent que leurs équipes internes sont plus à l'écoute et interagissent beaucoup plus avec le consultant handicapé d'une norme de score et avec ceux d'un cabinet classique, car leur singularité est source d'adhésion au projet complet. On pourrait bien répéter derrière Émile Zola que l'humanité célèbre chaque fois qu'elle tend la main. Enfin, la société Cassano, le chêne gaulois dont le créateur Théodore Van Gaver était lauréat de la 10e édition du prix de l'économie des biens communs de la Fondation EDC. Cassano produit du bois, d'œuvres et de meubles en valorisant le chêne 100% français, issu des tonneries et du cognac, et en intégrant des travailleurs en situation de handicap mental. Il s'agit d'une fabrication en circuit avec un atelier en Charente. Ces exemples peuvent paraître décalés par rapport à notre réalité économique. Ces entreprises sont pourtant une preuve vivante de l'humanité.
Vous écoutez KTO Radio. Tout de suite, l'office du milieu du jour en direct du Sacré-Cœur de Montmartre.
Fais que le jour de tes promesses. J'ai dit, quand vas-tu me consoler?
Sur l'innocent.
chacun demeure impénétrable.
Des rois. Sois courageux, montre-toi un homme. Tu garderas les observances du Seigneur ton Dieu en suivant ses chemins. Tu observeras ses ordres, ses commandements, ses décrets et ses préceptes. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras et entreprendras.
Accorde-nous une telle ferveur que nous soyons capables de t'aimer plus que tout et d'aimer nos frères à cause de toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Bénissons le Seigneur.
Have seen the glory of the coming of the Lord. He's trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He has loosed the fateful lightning of his terrible sweet song. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory.
I've seen him in the watchfires of 100 circling camps. They're building an altar in the evening dews and damps. I can read his righteous sentence by the demon flaring lamps. His day is marching on.
En partenariat avec Magnificat.
Nous souhaitons une belle fête aux Élysées. Nous découvrons l'histoire de la bienheureuse Francisca de Paula de Jésus, laïque brésilienne du XIXe siècle, qui vécut son quotidien de manière extraordinaire. Connue sous le nom de Natchika, tante Françoise est fille et petite-fille d'esclaves et de père inconnu. Sa maman la laisse orpheline à l'âge de 10 ans. Elle lui transmet comme héritage son amour pour Jésus et sa mère, ainsi qu'une statuette de terre cuite à l'effigie de Marie. Ces trésors deviennent la pierre angulaire de sa vie, et Natchika n'agira jamais sans consulter sa dame. Elle vit seule dans une petite maison sur une colline en périphérie de la ville de Baipenji. Bien que très belle, elle refuse de se marier et consacre toute sa vie aux nécessiteux, si bien qu'elle est rapidement appelée « mère des pauvres ». Sa maison devient un véritable lieu de pèlerinage. Les gens affluent pour la consulter, lui confier leurs difficultés. Elle prodigue conseil et réconfort, et quand sa prière est entendue du ciel, elle dit simplement « Je la prie ». Et madame me répond. Le vendredi, sa porte est close. En mémoire de la Passion, elle se consacre à la prière et à la pénitence. Lorsqu'elle reçoit un immense héritage à la mort de son frère, elle fait construire un sanctuaire dédié à l'Immaculée Conception, puis distribue le reste aux pauvres. Toute sa vie, Natchika reste analphabète et trouve sa joie à entendre lire les Écritures. très attaché à la prière des pauvres, la prière du rosaire. Son chapelet ne quitte jamais ses mains. La cérémonie de sa béatification eut lieu en 2013 dans ce sanctuaire qu'elle a fait construire et où elle est enterrée. Pour le cardinal qui représente le pape ce jour-là, sa caractéristique principale est son humilité, elle qui n'attribuait rien à sa personne, mais tout à Dieu et à la Vierge. Bienheureuse Francisca, nous te confions notre désir de nous rapprocher de Dieu. Aide-nous à découvrir la prière du chapelet, afin qu'à ton exemple, nos âmes soient sans cesse connectées au ciel.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pourquoi Padre. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous retrouver avec la question de Marie-Claire. Pourquoi dit-on que l'Église est l'épouse du Christ ? L'Église est dite épouse du Christ de manière analogique. C'est une image qui est utilisée pour signifier l'amour indissoluble, l'alliance inaltérable de Dieu avec l'humanité. C'est une image que nous retrouvions déjà dans l'Ancien Testament de Dieu qui s'unit à Israël, son épouse, et que nous retrouvons évidemment dans le Nouveau Testament avec le Christ qui accomplit l'alliance parfaite, l'alliance éternelle de ce don qu'il fait de lui-même par amour et bien à toute l'humanité. Oui, l'Église est l'épouse du Christ, car elle se tourne vers l'époux et l'époux se tourne vers elle pour s'unir, communier dans un amour éternel. Cette alliance que Dieu fait avec nous montre à quel point le Seigneur tient à cette fidélité, tient à nous rendre heureux. J'aime, lorsque je célèbre les mariages, ce moment où les deux époux échangent les consentements. Je te choisis pour époux, je te choisis comme épouse. Oui, le Seigneur fait choix de nous, nous faisons choix de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur d'ailleurs, c'est moi qui vous ai choisi. Il y a ce choix premier de l'amour de Dieu qui s'accomplit en chacun de nous personnellement, mais également ici de manière ecclésiale. C'est tous ensemble, unis dans une unité d'amour, que le Seigneur nous prend comme épouse. Il y a cette belle citation de Paul qui dit que le Seigneur a tant aimé l'épouse qu'il l'a voulu sainte et immaculée, sans ride, ni tache, ni défaut. Et que pour s'acquérir cette épouse, pour la séduire dans le beau sens du terme, il donne tout ce qu'il est. Il se donne lui-même. Alors cette image est pour nous une belle nouvelle, une bonne nouvelle. Nous sommes aimés de Dieu aujourd'hui et pour l'éternité de manière indissoluble. Cette unité, nous la recevons de Dieu et nous nous en réjouissons. Nous formons avec lui, nous sommes appelés à former avec lui une seule et même réalité dans la communion. Merci beaucoup Marie-Claire pour cette question. Vous pouvez vous aussi envoyer vos questions par email à cette adresse pourquoipadre@kto.tv.com ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadre. Et vous pouvez également retrouver toutes nos vidéos sur kto.tv.com. Je vous dis à très bientôt.
Simama tukuze Bwana. écoutez KTO Radio.
Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de ce programme. Lors du premier consistoire du pape Léon XIV tenu dans la matinée de vendredi 13 juin, le Saint-Père a fixé la date à laquelle deux jeunes bienheureux, Carlo Acutis et Pierre-Giorgio Frassati, seront élevés aux honneurs des autels. Ce sera le dimanche 7 septembre. Et en la date du 19 octobre a été fixée la canonisation de Bartolo Longo et de six autres bienheureux. Nous parlerons également du message du pape pour la 9e journée mondiale des pauvres qui se célèbre le dimanche 16 novembre. L'actualité de l'Église nous conduira également au Tchad et en République démocratique du Congo. L'actualité politique et sociale sur le continent africain concernera l'Afrique du Sud, le Kenya et l'Éthiopie. Nous bouclerons ce programme avec l'actualité internationale de la semaine. Bienvenue encore une fois à l'écoute de ces programmes que nous commençons avec l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Le pape Léon XIV a présidé vendredi 13 juin le premier consistoire de son pontificat. Le Saint-Père a décrété que les bienheureux Pierre Giorgio Frassati et Carlo Acutis seront canonisés le dimanche 7 septembre, tandis que les bienheureux Ignacio Chukrala Maloyan, Peter Toroth, Vincenza Maria Poloni, Maria del Monte Carmelo Rendiles Martinez, Maria Troncati, José Gregorio Hernández, Cisnero et Bartolo Longo seront canonisés le dimanche 19 octobre. Le Saint-Père a reçu en audience dans la matinée de vendredi le président de la République du Liban, Joseph Aoun, qui a ensuite rencontré le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État, accompagné de Mgr Miroslav Wachowski, sous-secrétaire pour les relations avec les États. Au cours des entretiens cordiaux qui ont eu lieu à la secrétairie d'État, il a été fait référence aux bonnes relations bilatérales en exprimant l'appréciation du rôle traditionnel et constant que joue l'Église catholique dans la société libanaise. Au cours de la conversation, l'espoir a été exprimé que le pays, à travers le processus de stabilisation et de réforme, connaisse une nouvelle saison d'harmonie politique et de reprise économique, lui permettant de renforcer les idéaux de coexistence entre les religions et de promotion du développement qui le caractérise. Le besoin nécessaire et inévitable de favoriser la pacification de l'ensemble de la région du Moyen-Orient a été abordé. « Tu es mon espérance », c'est le thème du message de la 9e Journée mondiale des pauvres qui se célèbre le 16 novembre, message publié vendredi 13 juin, fête du patron des pauvres, Saint-Antoine de Padoue. Le pape appelle les fidèles à redécouvrir l'espérance chrétienne comme réponse à l'instabilité qui imprègne le monde. S'inspirant des psaumes et de l'expérience vécue par ceux qui souffrent de la pauvreté, Léon XIV exhorte les chrétiens à reconnaître les pauvres non pas comme des objets de charité, mais comme des protagonistes de l'espérance, compte rendu Alexandra Sirgan.
Les pauvres ne sont pas une distraction pour l'Église, écrit Léon XIV. Ils sont nos frères et sœurs les plus aimés, car chacun d'eux, par son existence et aussi par les paroles et la sagesse dont il est porteur, nous invite à toucher du doigt la vérité de l'Évangile. C'est pourquoi ce message veut rappeler aux communautés chrétiennes que les pauvres sont au centre de toute l'œuvre pastorale. Toutes les formes de pauvreté sont un appel à vivre concrètement l'Évangile et à offrir des signes efficaces d'espérance. Et ces formes de pauvreté sont nombreuses aujourd'hui. L'accès à un logement, à une alimentation suffisante, aux soins, à un bon niveau d'éducation et d'information ou encore à la liberté religieuse et d'expression. La plus grande pauvreté étant de ne pas connaître Dieu, avertit le souverain pontife. Face à la succession de nouvelles vagues d'appauvrissement, le pape met en garde contre l'habitude et la résignation. C'est pourquoi en cette année sainte, Léon XIV appelle à ce que le jubilé puisse encourager le développement de politique de lutte contre les formes anciennes et nouvelles de pauvreté, ainsi que de nouvelles initiatives de soutien et d'aide aux plus pauvres parmi les pauvres.
Le laïc congolais Floribert Boanachoui sera béatifié ce dimanche 15 juin à la basilique Saint-Paul hors les murs à Rome. En approuvant le décret de sa béatification le 25 novembre 2024, le pape François l'avait défini martyr de l'honnêteté et de l'intégrité morale, car en tant que fonctionnaire de l'État, il n'avait pas cédé à la corruption. Le futur bienheureux était membre de la communauté de Sant'Egidio. Pour Aline Minani, responsable de Sant'Egidio Goma en République démocratique du Congo, Floribert Boanachoui constitue un modèle pour tous les Congolais, en particulier pour les jeunes et pour les fonctionnaires de l'État.
Aux jeunes Congolais, je pense, c'est de faire notre la mémoire de Floribert. Ne pas prendre cela comme c'est une histoire étrange. Non, nous vivons dans cette, dont nous voulons écrire une nouvelle histoire aujourd'hui. Floribert l'a fait. Nous devons emboîter les pas, suivre ce que Floribert a fait. Je pense qu'habiller, donner une habille au témoignage de Floribert, c'est en parler et pouvoir suivre son modèle dans toutes les circonstances de la vie. Floribert, dans son lieu de travail, il a vécu l'évangile. Il n'a pas voulu séparer et sa vie chrétienne et sa vie professionnelle. Il est parti dans son lieu de service, c'est là où ça l'a pris. Il s'est retrouvé piégé, mais il a su rester debout. Il ne s'est pas plié à la culture de l'argent, à la culture de sauve-toi toi-même. Il s'est dit, la santé de tout le monde compte. Et pour nous, jeunes, aujourd'hui, quand on se retrouve devant ce genre de circonstances, il faut d'abord se poser des questions comme Floribert l'a fait, parce qu'il s'était dit, si je le fais, est-ce que je sers le Christ ou pas? Alors, est-ce que moi aussi, je peux me poser cette même question pour savoir quel choix prendre devant toutes sortes de tentatives ou de tentations, pardon, où on peut se retrouver, on doit faire un choix crucial. C'est poser la question si je sers le Christ ou je me sers moi-même, ou je sers l'idolâtrie de ce que nous impose la société aujourd'hui. Donc, c'est savoir faire un bon choix.
Au-delà des jeunes, qu'est-ce que la vie de Floribert Boanachoui peut inspirer à tous les Congolais, particulièrement aux décideurs politiques?
La vie de Floribert inspire à beaucoup de choses parce que nous savons ce que nous traversons aujourd'hui et nous voyons ce qui tue le tissu de la société aujourd'hui. Ça se fragilise du jour au jour. Mais la vie de Floribert vient nous donner encore de l'espoir pour tout le monde, voir que la vie de tout le monde compte. Pour tout le monde, je dirais qu'aujourd'hui nous avons un modèle au Congo. Tout le monde connaît l'histoire à laquelle on s'est identifié notre pays. Qu'aujourd'hui, tous, même les hommes politiques, même les jeunes, tout le monde se dit qu'il a une responsabilité à accomplir dans ce qui se passe aujourd'hui. Que chacun prenne sa responsabilité.
Aline Minani, responsable de Sant'Egidio Goma, des propos recueillis par Stanislas Kambashi. Les sœurs missionnaires filles de Jésus crucifié célèbrent le centenaire de leur existence. Les religieuses fondées par le prêtre italien Salvatore Vico ont eu la joie d'accueillir sept nouveaux membres en République démocratique du Congo. Les détails avec Jean-Baptiste Malenge Kalunzu.
La supérieure provinciale de la République démocratique du Congo, sœur Sabine Telemo, a reçu la première profession religieuse de sept novices lors de la messe célébrée le samedi 7 juin dans l'église paroissiale Saint-Joseph d'Arimathée du diocèse de Kisanto, située dans la ville de Kinshasa. Les nouvelles sœurs missionnaires filles de Jésus crucifié sont Brigitte Niabola, Espérance est tombée, Julienne de Wena, Grâce Niamale, Brigitte Ndalangue, Marie Ezoba et Pauline Mobala. La supérieure provinciale Sabine Telemo a demandé aux parents des religieuses et à tous les fidèles de Saint-Joseph d'Arimathée de prier pour la congrégation afin de maintenir dans le monde au service de l'Église le charisme de réunir des âmes généreuses qui par leur vie de prières et de sacrifices soutiennent la sainteté des prêtres et les besoins de l'Église. Fondée en Italie en 1925 par le prêtre Salvatore Vico, les sœurs missionnaires filles de Jésus crucifié sont arrivées en République démocratique du Congo au diocèse de Bujala en 1976. Elles sont présentes aussi dans le diocèse de Molégué et dans l'archidiocèse de Kinshasa. Elles ont leur noviciat dans le diocèse de Kisanto. Le père Jacques Kouziala, missionnaire de la Consolata, qui a présidé la messe du 7 juin, a exhorté les nouvelles religieuses à la fidélité au charisme de leur congrégation et à l'attachement au Christ crucifié.
Lorsque les gens vous voient, vous regardent, les gens doivent dire, regardez les filles de Jésus crucifiées qui passent.
Jean-Baptiste Malenge Kalunzu pour Radio Vatican.
Au Tchad, dans le diocèse de Pala, c'est dans une immense joie que les fidèles ont marqué la fin de leur pèlerinage diocésain par une Eucharistie présidée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Dominique Tenouji, Edouard Takadji.
Placée sous le thème « La prière unanime des fidèles, source d'unité, de paix et de joie », ces pèlerinages diocésains regroupaient toutes les 5 zones que compte le diocèse de Pala autour de leur évêque Monseigneur Dominique Tinoudi. Dans son mot d'accueil, l'abbé Gaspard Dunumbi, curé de la paroisse cathédrale Saint-Paul et Pierre, a invité les pèlerins à se préparer à recevoir l'Esprit Saint en cette année du jubilé de l'espérance. Monseigneur Dominique Tinoudi, évêque du diocèse de Pala, a centré son exhortation sur 3 points forts, notamment l'église de Pala, peuple de Dieu uni, l'église de Pala, peuple de Dieu plein d'espérance, et l'église de Pala, peuple de Dieu en marche. Évoquant la question de l'unité des chrétiens, l'ordinaire du lieu a dit.
Pendant sa vie publique, il a prié pour qu'il y ait l'unité, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. La devise de notre pays commence par l'unité. Unité, travail, progrès. L'unité placée au début des 3 mots de notre devise nous interpelle et nous invite à dépasser les clivages linguistiques, géographiques et religieux pour la construction d'une nation unie.
Edouard Takadji Ndjamena pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Un policier a comparu vendredi devant un tribunal kényan suspecté dans la mort en garde à vue le week-end dernier à Nairobi d'un homme qui avait critiqué un officier sur les réseaux sociaux et dont le décès a provoqué colère et manifestations dans le pays. La province natale de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, dévastée par des inondations sans précédent qui ont fait au moins 78 morts, selon un bilan toujours provisoire, a reçu la visite vendredi du président Cyril Ramaphosa. Le journaliste éthiopien Tesfalem Waldies, fondateur du média en ligne Ethiopia Insider, qui était détenu depuis dimanche pour propagation de fausses informations, a été libéré. Terminons cette émission avec l'actualité internationale de la semaine présentée par Stanislas Kambashi.
Ouvrons ce tour de l'actualité internationale par l'escalade au Moyen-Orient. Israël a mené vendredi une série de frappes aériennes contre l'Iran, disant viser une centaine de cibles dont des sites nucléaires, des attaques ayant causé mort d'hommes. L'Iran a déclaré qu'il avait le droit légal et légitime de répondre à ces attaques meurtrières. Téhéran a riposté en lançant des drones vers les territoires israélien. Crash d'un Boeing en Inde jeudi. Un avion de la compagnie Air India à destination de Londres s'est écrasé quelques instants après son décollage d'Ahmedabad dans l'ouest du pays. À New Delhi, Emmanuel Derville.
Le survivant du crash du Boeing 787 d'Air India serait le seul alors qu'il y avait 242 personnes à bord. L'appareil volait depuis près de 12 ans et n'avait jamais eu de problème technique. Les secours ont extrait 204 corps de la zone du crash. L'avion s'est abîmé sur une école de médecine et il y a au moins 5 morts parmi les étudiants. New Delhi, Emmanuel Derville, Radio Vatican.
Le premier ministre sortant du Kosovo, Albin Kurti, annonce que son pays va accepter 50 migrants illégaux déportés des États-Unis sur une période de 1 an à la demande de ce pays. Le premier ministre y voit un moyen de montrer la reconnaissance éternelle du Kosovo envers les USA, qui ont toujours soutenu l'indépendance de cette ancienne province serbe. Laurent Rouy, depuis Belgrade.
Le Kosovo est le premier pays des Balkans à accepter des migrants expulsés des États-Unis. Le premier ministre du Kosovo précise que le petit pays, l'un des plus pauvres d'Europe, se réserve le droit de choisir ses migrants parmi une liste proposée par les États-Unis. La nouvelle confirme des révélations parues dans la presse nord-américaine plus tôt ce mois-ci qui faisaient état de pression de Washington sur des pays d'Europe du Sud-Est, dont le Kosovo, la Moldavie et la Serbie, pour accepter des migrants. Interrogé, le ministre serbe des Affaires étrangères avait refusé de confirmer ces informations. Notons que les États-Unis ne sont pas les seuls à vouloir transférer des migrants dans les Balkans. L'an dernier, l'Italie inaugurait un centre de rétention pour migrants illégaux en Albanie, tandis qu'en mars, l'Europe ouvrait la voie à la création de centres pour migrants hors de ses frontières, avec les Balkans en ligne de mire. Belgrade, Laurent Rouy, Radio Vatican.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mwandobwa-Boalo a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.
KTO Radio.
Bonjour à tous. Une nouvelle date pour la canonisation de Pier Giorgio Frassati et Carlo Acutis. Les mosaïques de Rupnik retirées des sites web du Vatican et le mont Athos touché par un séisme. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Les bienheureux Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati seront finalement canonisés le 7 septembre. C'est officiel, le pape Léon XIV l'a annoncé ce vendredi lors du consistoire public organisé pour étudier plusieurs causes de canonisation. Un événement très attendu puisque ces deux Italiens représentent des figures emblématiques pour les jeunes. Carlo Acutis, surnommé le geek de Dieu, devait initialement être canonisé le 27 avril dans le cadre du jubilé des adolescents, une célébration reportée en raison des obsèques du pape François. Léon XIV a aussi décidé de décaler de quelques semaines la canonisation de Pier Giorgio Frassati, qui devait au départ se tenir le 3 août, en clôture du jubilé des jeunes à Rome. Les chrétiens sont le groupe religieux le plus important au monde et demeurent majoritaires dans la plupart des régions. C'est ce que révèle une étude réalisée par le centre de recherche américain Pew Research Center sur l'évolution du paysage religieux entre 2010 et 2020. Si le christianisme demeure la première religion, représentant 28,8% de la population mondiale avec 2,3 milliards de chrétiens en 2020, l'islam avec 2 milliards de musulmans bénéficie d'une croissance plus importante et constitue désormais la religion d'un quart des habitants de la planète. Dans certains pays traditionnellement chrétiens, en Europe et en Amérique du Nord, un grand nombre de chrétiens abandonnent la religion. Le nombre de non-chrétiens dans le monde a ainsi augmenté de 15%. C'est finalement en Afrique subsaharienne que la part des chrétiens a le plus augmenté pour atteindre 62% de la population mondiale en 2020. L'IOR, l'Institut pour les œuvres de religion, a publié le 11 juin son rapport annuel présentant le bilan financier de l'année 2024. Un bilan positif, le rapport relève un bénéfice net de 32,8 millions d'euros, une hausse de 7% par rapport à l'année précédente. Surnommée la Banque du Vatican, cet institut qui compte 105 employés est la seule entité autorisée à exercer des activités financières professionnellement dans l'État de la Cité du Vatican. Le président Jean-Baptiste de Françu précise dans le rapport que pour la première fois, le pape François avait décidé d'allouer l'ensemble des dividendes pour des œuvres caritatives. Le pape a nommé son premier évêque en Chine. Monseigneur Lin Yuntan, 73 ans et déjà évêque depuis 2017, a été installé mercredi en tant qu'évêque auxiliaire de Fuzhou dans le sud-est du pays, une semaine après sa nomination reconnue par Pékin. Cette nomination intervient dans le cadre d'un accord confidentiel entre le Saint-Siège et la Chine, signé en 2018 et renouvelé en octobre dernier. Alors que deux évêques avaient été nommés sans l'assentiment de Rome durant la période sede vacante, le Vatican a exprimé sa satisfaction à propos de cette nomination qui constitue un nouveau fruit du dialogue entre le Saint-Siège et les autorités chinoises. Le Saint-Siège a retiré les mosaïques de Marco Rupnik de ses sites internet officiels ce lundi. Les œuvres du prêtre slovène, accusé de viol, d'agression sexuelle et de violence psychologique sur une vingtaine de personnes, étaient notamment utilisées sur le site de Vatican News pour illustrer certains articles sur les fêtes et solennités de l'Église. Une décision qui intervient quelques jours après une rencontre organisée le 5 juin entre le pape Léon XIV et les membres de la commission pontificale pour la protection des mineurs. Le Saint-Père avait également rencontré le cardinal O'Malley, président de cette commission, le 14 mai dernier. Depuis début mai, la région du Haut-Mbomou, au sud-est de la République centrafricaine, est le théâtre de violences entre les forces armées centrafricaines et des combattants issus de la communauté Zande. Jeudi 5 juin, Mgr Juan José Aguirre, évêque de Bangassou, et Mgr Aurelio Gazzera, évêque coadjuteur de ce diocèse, ont publié une lettre pour demander l'arrêt des violences. Les évêques déplorent les dizaines de morts en ces dernières semaines et rappellent fermement que ce n'est pas avec la violence que la violence va cesser. Ils exhortent toutes les parties impliquées à dialoguer et assurent que l'Église catholique est toujours prête et disponible pour travailler pour la paix. Samedi dernier, 7 juin, un séisme de magnitude 5,3 a touché la péninsule du Mont Athos, qui abrite 20 monastères orthodoxes dans le nord de la Grèce. Le tremblement de terre n'a fait aucune victime sur l'île, mais a causé des dégâts dans 3 monastères, celui de Xénophon, de Docheiariou et de Simonos Petras. L'expertise des archéologues et des restaurateurs sur place a relevé des fissures et des dommages sur les mosaïques, les voûtes et les sols en marbre. Le tremblement de terre a aussi aggravé des dégâts provoqués par un séisme précédent survenu 5 mois plus tôt. Et en bref, je suis la vigne et vous les sarments. C'était le thème du traditionnel pèlerinage dans les vignes organisé lundi de la Pentecôte par le diocèse de Reims. De nombreux pèlerins ont pu découvrir un aspect de la Terre Sainte chez nous. Une journée qui s'est terminée par une messe d'envoi présidée par Mgr Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse. Le même jour, la mission ouvrière du diocèse de Lille organisait un banquet fraternel à Dunkerque, réunissant 270 convives. L'archevêque de Lille, Mgr Laurent Lebouche, s'est joint à la rencontre et a présidé une célébration à l'issue de la journée. Un début d'incendie a été signalé ce mercredi à la cathédrale de Laval, alors en travaux. L'action rapide des services d'urgence a permis d'éviter des dommages majeurs. Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet, privilégiant la piste d'une dégradation volontaire. Le diocèse de Laval appelle quant à lui les témoins à se manifester. Soldats du feu, les pompiers indiquent la voie du souci de l'autre et de la fraternité. À la suite de la mort de 2 jeunes pompiers volontaires dans un incendie à Laon, dans l'Aisne, Mgr Renaud de Dinchin, évêque de Soissons, a demandé à toutes les paroisses du diocèse de célébrer des messes à leur intention. C'était SIC, la sélection de l'info catholique.
Méditation présente La Minute Énergie.
Je me pose. Je respire profondément, plusieurs fois. Seigneur, me voici. Du psaume 18. Je t'aime, Seigneur. Tu es ma force. Je t'aime, Seigneur. Tu es ma force. Merci Seigneur, je t'aime.
Téléchargez Méditatio, la première application de méditation chrétienne en français.
Un mois d'accès gratuit avec le code KTO.
Dans sa bonté, il m'a sauvé.